Il faut prier pour Alexandre, donc, qui se retrouve avec une maison envahie. Alors, nous allons terminer cette série dans 1 Corinthiens 12 à 14. Et c'est le dernier message dans 1 Corinthiens chapitre 14. On avait vu un certain nombre de choses. On va parler du bon ordre dans l'Église. Et nous allons lire donc à partir du verset 14. Donc, 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les incroyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les incroyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un traduise, hein, interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit, que tout soit exhorté. Mais les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et donc, on voit que le message de Dieu, là, c'est l'ordre dans l'Église. Et il en profite pour montrer la différence entre la prophétie et le parler en langue, et de dire que la prophétie est plus utile, beaucoup plus utile, 10 000 fois plus utile que le parler en langue. Et donc, nous allons prendre ces versets tranquillement. Il dit, verset 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Là, il va parler de louer, d'adorer Dieu avec notre intelligence. C'est Dieu qui a fait notre intelligence, notre intellect, notre cerveau, et il veut donc que cette intelligence soit sanctifiée. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit et de l'intelligence en même temps. Par exemple, pour prier, on peut prier des prières humaines qui ne vont pas dépasser le plafond avec notre propre intellect. C'est-à-dire, on peut faire des belles prières poétiques, en rime, en vers, tout ce que vous voulez, très intellectuelles, avec beaucoup de mots. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande une prière de foi, une prière du cœur. Mais chez les Corinthiens, ils priaient en langue. C'est-à-dire, personne ne comprenait ce qu'ils priaient, et eux-mêmes, celui qui priait, ne savait pas ce qu'il priait. Et là, Dieu nous dit, si je prie par l'esprit, oui, mais avec l'intelligence. Si je chante, je chante par l'esprit de Dieu, oui, mais avec mon intelligence. C'est-à-dire, je dois réfléchir, je dois savoir ce que je dis et ce que je chante. Le fait de ne pas utiliser l'intelligence, c'est ce qu'on appelle le mysticisme, c'est quand on entre en transe et qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On est pris par la chose, hein, et on ne maîtrise plus rien. Et Dieu ne veut pas ça dans l'Église. Il veut que quand on prie, on sache ce qu'on dit. Et que les autres puissent le savoir, verset 16, pour dire Amen. Amen, c'est quand on répond à la prière et qu'on dit oui, je suis d'accord, oui, je prie avec toi, je te suis sur cette prière. Mais si je ne comprends rien à ce qu'il a prié, je ne peux pas dire Amen. Et du coup, ça ne sert à rien, ça n'édifie pas l'Église. Donc l'importance d'utiliser notre intelligence, il ne faut pas nier notre intelligence. Dans le mysticisme, on dit, ah non, c'est uniquement ce qui est spirituel qui est bon. Tout ce qui est matériel et tout ce qui est même intellectuel est mauvais. Eh bien, c'est une erreur qui est corrigée ici. L'intellect vient de Dieu et il est bon quand il est sanctifié par la parole de Dieu et l'esprit, bien sûr, hein. Parce que l'intellect peut être utilisé à mauvais escient, évidemment. Mais il faut l'utiliser à bon escient par l'esprit, quand on chante, quand on prie. Verset 17, il rappelle encore le reproche qu'il leur fait, l'autre n'est pas édifié. Le but de l'Église, le but des réunions, là il parle des réunions, hein, du culte, c'est de s'édifier, de s'encourager, de se fortifier. Et il faut voir le culte comme ça, il faut venir aux réunions dans cet esprit-là. La réunion d'Église n'est pas une réunion de club, ce n'est pas une réunion avec mon intérêt, comment je vais, des luttes de pouvoir, ou je ne sais pas, de clan. La réunion de l'Église, c'est comment je vais édifier mes frères et sœurs par l'amour de Dieu. Et alors il dit, pour édifier, il vaut mieux prophétiser que parler en langue. Parler en langue n'édifie personne. Sauf, il dit, s'il y a un traducteur, s'il y a une interprétation. Et donc, à l'époque de Paul, le parler en langue était encore pratiqué, et Dieu demandait qu'il y ait une traduction à chaque fois. Le premier parler en langue, le jour de la Pentecôte, n'avait pas besoin de traduction, puisqu'il était destiné à ceux qui comprenaient ces langues-là. Hein? Mais après, il fallait un traducteur, puisque plus personne ne comprenait rien à ces langues. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul, on avait vu au chapitre 13, hein, dit que le parler en langue va s'éteindre, hein, va disparaître, et c'est ce qui est arrivé. Il dit, verset 19, « Dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. » Donc, il vaut mieux utiliser son intelligence que de partir dans des transes et de se laisser happer par n'importe quel esprit. Ce n'est pas parce qu'on est dans une Église que Satan ne peut pas agir. Il peut, par ses mauvais esprits, ses démons, hein, influencer les chrétiens. Il faut donc vérifier tout ce qui est dit. C'est pour ça que même lorsqu'il y a prophétie, il le dit plus tard, verset 29, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent pendant le culte, hein, et que les autres jugent. Donc, à cette époque-là, je vous rappelle qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament. C'était les prophètes, ceux qui avaient le don de prophétie, qui révélaient les vérités et qui était Christ et comment adorer Dieu et comment servir le Seigneur dans la vie chrétienne, dans la nouvelle alliance. Mais il fallait qu'il y ait deux ou trois au maximum dans chaque culte et les autres devaient vérifier si ce qui était dit était exact. Paul avait parlé du don de discernement des esprits. Je pense qu'il y avait ce don aussi, pour empêcher qu'un faux prophète ne vienne au milieu de l'assemblée et ne commence à déblatérer des choses fausses. Encore aujourd'hui, il peut y avoir des faux prophètes, des faux enseignants, des gens qui se font passer pour des pasteurs ou des écrivains, théologiens, etc., et qui enseignent des choses fausses. Il faut vraiment discerner avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'un don spécial puisqu'on a la parole de Dieu. Mais il faut le don quand même de bien la comprendre et de savoir discerner quand même les erreurs. Parce que Satan est malin, bien sûr, c'est son nom, il mélange la vérité avec l'erreur. Il n'arrive pas avec ses gros sabots en disant « il faut adorer Satan, Jésus est mauvais ». Non, il ne vient pas comme ça. Et il pervertit la vérité, il la transforme légèrement pour égarer les chrétiens sans qu'ils s'en rendent compte, pour les éloigner petit à petit du Seigneur. Il a remplacé par exemple le culte de Jésus-Christ par le culte de la Vierge. C'est un exemple que je donne là, où les hommes avec une foi sincère vénèrent la Sainte Vierge de tout cœur, de tout leur être, de toute leur âme, alors que Dieu n'a jamais demandé une chose pareille. C'est même, on peut dire, presque un blasphème, puisque seul Dieu doit être adoré. Marie n'était pas Dieu, hein. Ce n'était qu'une femme, qu'un être humain. Et donc, Satan remplace la vérité par l'erreur et on doit vraiment veiller en toute chose. Verset 20, c'est un verset intéressant où il dit « Il ne faut pas être des enfants, il faut être des adultes au niveau du jugement. » C'est-à-dire, les Corinthiens étaient enfantins. Ils faisaient des enfantillages, et du babillage avec le parler en langue. Ils se querellaient comme des enfants dans une cour d'école. Si vous lisez l'épître aux Corinthiens, c'est vraiment ça. Il y avait peut-être même des coups de poing. Il y avait des gens ivres pendant la Sainte-Cène. Hein. Il y avait des gens riches qui venaient avec leur repas plantureux, pas plantureux, mais je ne sais pas comment dire, abondant, voilà, leur grand repas. Et puis le pauvre qui venait aussi au culte, il avait son petit bout de pain, sa petite galette avec un peu de je sais pas quoi. Et puis le riche, il se pavanait, il mangeait, il buvait à côté du pauvre qui lui n'avait rien. Paul fait tous ses reproches aux Corinthiens et dit « Mais vraiment, vous êtes des enfants. Vous êtes des bébés. Il faut devenir mûr dans la foi. » Et nous avons tous besoin d'apprendre ça. Hein. On a tous de l'immaturité. C'est ça le but du chrétien, et c'est de mûrir, d'être comme Christ. C'est ça, mûrir. Hein. C'est de ressembler à Christ, d'avoir son équilibre. Mais par contre, il dit, pour la méchanceté, il faut rester enfant. C'est-à-dire, il faut avoir ce cœur innocent et pur. Dans la méchanceté, il ne faut pas être pervers et tordu par rapport au mal. Et puis, il va donner au verset 21-22 le but du parler en langue, et c'est un verset très très important qui éclaire vraiment la question du parler en langue une fois pour toutes. Il cite une prophétie d'Ésaïe chapitre 28. C'est par des hommes d'une autre langue, par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils n'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Le contexte de cette prophétie d'Ésaïe, c'était que les Assyriens avaient pris Israël, le territoire du nord, avaient conquis Israël, et ils étaient en train de s'attaquer au sud, Juda et Jérusalem. Jusqu'à présent, Juda et Jérusalem étaient restés fidèles. C'est les quartiers du nord qui étaient vraiment devenus idolâtres, et Dieu avait envoyé les Assyriens pour comme châtiment. Mais le sud était en train de suivre la même voie, et Dieu les avertit en disant « Attention, il y a des étrangers avec un langage barbare, c'est-à-dire les Assyriens, dans le contexte, qui vont venir vous parler de ma part. » Et pour les Juifs, qu'un barbare lui enseigne quelque chose, c'était la pire insulte. L'hébreu était la langue sacrée, le peuple juif, le peuple élu, et c'était donc un jugement. Et il utilise cette prophétie d'Ésaïe, verset 22, pour dire « Par conséquent, les langues, le parler en langue, est un signe pour les incrédules, pas pour les croyants. » C'est-à-dire, le parler en langue est un signe de jugement, est un signe qui est là pour parler aux incrédules du peuple hébreu. Alors, qu'est-ce qu'il dit au peuple hébreu? Eh bien que, justement, ce ne sont plus les Juifs seuls qui ont la foi, ou qui sont aimés de Dieu, ou qui sont bénis par Dieu, c'est toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations ont accès, ont même accès à Dieu, et même Israël, d'une certaine façon, est mis en dessous pendant un temps, hein, parce qu'ils ne veulent pas écouter le Seigneur. Ils parlent, bien sûr, parmi les Juifs, il y avait ceux qui ont cru, comme Paul, hein, qui écrit, et puis ceux qui étaient restés incrédules et opposés à Jésus et à l'Évangile. Donc le parler en langue n'était pas un don spirituel pour communiquer avec Dieu. C'était pas un don spirituel pour mieux prier, la langue des anges, je ne sais pas quoi. Ce n'était pas un don spirituel pour édifier l'Église. Le parler en langue était un signe de jugement sur Israël. C'est pour ça qu'il a eu lieu à la Pentecôte, lorsque les apôtres, devant la foule de Juifs réunis à Jérusalem pour la fête, ont commencé à louer Dieu, les merveilles de Dieu, dans des langues étrangères. Tout le monde était troublé, choqué et en même temps émerveillé de ce miracle, parce qu'il n'avait jamais appris toutes ces langues. C'était un miracle, mais c'était un signe de jugement. La prophétie, au contraire, est un signe pour les croyants. C'est-à-dire, c'est le but de la prophétie, c'est d'édifier, de parler au cœur des croyants. Mais le parler en langue n'est pas là pour parler. Quand Pierre a prêché l'évangile à la Pentecôte, ce n'est pas en langue qu'il a prêché, c'est probablement en araméen ou en grec. Mais ce n'était pas avec ce signe des langues. Voilà. Et puis, il continue dans le verset 23 d'1 Corinthiens 14 pour dire que le parler en langue n'est pas du tout bon pour toucher les visiteurs. Lorsqu'un visiteur entre dans une église et qu'il entend se parler en langue, qu'est-ce qu'il peut se dire? Ils sont fous. Voilà. Ça existe encore aujourd'hui. Des gens qui ont été troublés, ils sont rentrés dans une église évangélique, ils ont entendu le pasteur au pupitre qui s'est mis à prier Shambhalabala. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tout le monde s'est mis à prier comme ça. Tout le monde en même temps. C'est troublant. Voilà, c'est troublant pour un visiteur. Et c'est ce que Paul nous dit ici. C'est pas comme ça que vous allez toucher les gens de l'extérieur. Pour toucher les gens de l'extérieur, il faudrait que tous vous prophétisiez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, il ne faut pas prendre la prophétie pour une sorte d'action mystique, hein, où on est là, au nom du Seigneur, je te déclare. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est les vrais prophètes. Mais dans l'Église, là, la prophétie dont il parle, c'est une prophétie qui est là pour, alors il le dit, hein, consoler, édifier. C'est-à-dire, c'est une exhortation, c'est un encouragement, c'est une parole de Dieu. Il dit, si tout le monde dans l'église était en train de se parler du Seigneur, de se dire, tu sais, le Seigneur est grand, le Seigneur est juste, tu sais, le Seigneur est mort pour nos péchés, tu sais, Dieu est saint, ou tu sais, nous avons besoin de chercher plus le Seigneur et moins les choses de ce monde. Si tout le monde parlait comme ça dans l'église, celui qui entre, il dit, serait convaincu de péché, convaincu de la différence entre sa vie et la vie chrétienne. C'est terrible lorsqu'un visiteur rentre dans une église et non seulement il n'est pas convaincu de la présence de Dieu, mais même il est convaincu du contraire. C'est-à-dire, il dit vraiment, je ne mettrai plus les pieds ici. Et on doit vraiment veiller à notre témoignage par rapport aux visiteurs, parce qu'il y a toujours des visiteurs. Et si on veut qu'il y en ait encore, il faut avoir ce témoignage. Il dit, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, il tombera sur sa face adorant Dieu et publiant que Dieu est réellement au milieu de vous. Quel est le signe que Dieu est réellement au milieu de nous? Mais c'est qu'il y a cet amour, cette exhortation, cette parole de Dieu qui règne à travers les chants, à travers la prière, à travers les conversations. Quelles sont nos conversations dans l'Église? Si on parle de la finale de foot, de tennis, de politique, des dernières modes, du dernier film, etc., si c'est tout ce que nous avons à nous dire, il vaut mieux aller dans un club. Voilà, dans un club, ça c'est très bien. Mais dans une église, il y a la présence de Dieu. Franchement, si on était devant le trône de Dieu, si le Seigneur était là, assis sur son trône, est-ce qu'on parlerait de n'importe quoi? Je pense qu'on aurait tellement de crainte et de solennité qu'on essaierait de glorifier le Seigneur, de lui plaire. Et il faut le faire parce que Dieu veut être au milieu de nous. Alors aujourd'hui, la prophétie n'est pas comme à l'époque des Corinthiens, puisque nous avons le Nouveau Testament maintenant qui est complet. La prophétie, c'est à travers la Bible. Alors, il y a bien sûr la prédication derrière le pupitre, mais il n'y a pas que ça. Il y a la prédication des chrétiens, c'est-à-dire partager. Oh, tu sais, cette semaine, j'ai eu un verset qui m'a touché. Cette semaine, j'ai prié, le Seigneur a exaucé. Cette semaine, le Seigneur m'a montré ceci ou cela. Et on peut le partager avec les frères et sœurs. C'est comme ça qu'on prêche aussi, ou qu'on prophétise, ou qu'on exhorte. aussi un chrétien qui est découragé, on peut le consoler. Dire, écoute, persévère, comme notre frère nous l'a dit ce soir, c'était un message de consolation, d'encouragement à persévérer. On doit avoir ça dans nos bouches, dans nos cœurs. On doit venir à l'église avec un message pour les autres. Et pas simplement le prédicateur. Vous savez, le pasteur, il prépare normalement son message. Pendant la semaine, il dit, mais qu'est-ce, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Quel sujet je vais prendre? Quel passage de la Bible? Et on se prépare. Et nous qui venons à l'église sans prêcher, est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on a quelque chose à partager? Est-ce qu'on a quelque chose à dire aux autres? Et c'est ça qu'il veut, que dans le culte, il y ait cette émulation de tous. Ce ne soit pas un acteur avec des spectateurs, hein. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas un spectacle. Il y a trop d'églises transformées en salles de spectacle. C'est le modèle des églises, notamment aux États-Unis, puisque vous avez les chaises, la scène, les lumières et les professionnels sur la scène et les spectateurs regardent. Ils écoutent les chants joués par des musiciens professionnels, chantés par des chanteurs professionnels avec une sono extraordinaire, des lumières, des jeux de lumière. Il y a des sketchs, c'est quasiment des acteurs, des mimes, toutes sortes de choses. Le pasteur est un orateur hors pair, et puis tout le monde est là et s'en va. Voilà, on a vu un spectacle chrétien. Mais ce que Dieu attend, c'est que chaque chrétien participe par sa prière, par ses chants, ses louanges, par son exhortation. Mais dans l'ordre, évidemment. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et c'est là où il va intervenir aussi, parce que chez les Corinthiens, c'était, pour dire vulgairement, la foire d'empoigne. Il demande que ceux qui parlent en langue ne soient pas plus de deux ou trois dans la réunion et que chaque fois, il y ait une traduction, sinon qu'on se taise. Vous avez remarqué qu'il a dit aussi « Je parle en langue plus que vous tous », il le dit un peu plus tôt. Verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et puis, à la fin, il dit « N'empêchez pas de parler en langue. » Paul n'est pas en train de supprimer le parler en langue à Corinthe. On remarque l'immense tolérance. Ce qu'il aurait pu dire, ça suffit maintenant, arrêtez totalement vos âneries. Non, il dit « On peut parler en langue, mais avec des règles de Dieu. » C'est-à-dire, il faut que ce soit le vrai parler en langue et pas se parler en langue mystique, hein. Des mystères là. Et puis deuxièmement, il faut qu'il y ait un traducteur. Si vous vous êtes inspiré par Dieu, qu'il y ait un traducteur. Sinon, on se tait. Pour les prophètes, c'est pareil. Deux ou trois, et il faut que les autres jugent pour être sûr que ça vient du Seigneur, que ça conforte la parole de Dieu, que ça ne contredise pas la parole de Dieu. Et puis après, il parle aux femmes. Verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Alors, ce verset posait beaucoup de problèmes aux commentateurs. Est-ce qu'il faut absolument interdire aux femmes d'ouvrir la bouche dans l'église? D'abord, le contexte, c'est quand même dans le culte. Hein? Et il y a un problème à Corinthe, visiblement, puisqu'on le trouve au chapitre 11 aussi avec le voile. C'est que les femmes, les chrétiennes de Corinthe, avaient une attitude extrêmement rebelle, extrêmement dévoyées même, dans l'Église, elles étaient insoumises. Qu'est-ce qui s'était passé? Et ça, c'est les historiens et les commentateurs de la Bible qui l'ont étudié. C'est que ces femmes de Corinthe, lorsqu'elles ont accepté le Seigneur, elles ont découvert qu'elles étaient sauvées comme les hommes, qu'elles avaient le même accès à Dieu, et que donc, elles pouvaient être libérées du joug social qui pesait sur les femmes, notamment les femmes juives, entre autres, hein, mais aussi les femmes non-juives, et où la femme eh bien, devait être soumise à son mari, et parfois elle était tellement amenée à la soumission que c'était quelque chose de répréhensible. Hein. Mais donc, en étant sauvée, elles se sont dit, je suis libre, je peux donc, moi aussi, faire tout ce qui me passe par la tête dans le culte. Et comme les Corinthiens avaient une liberté extrême, et qui frisait hein, le désordre, les femmes se mettaient à prophétiser, à parler, à critiquer, à juger, à parler pendant le culte. Alors Paul intervient en disant « Dorénavant, les femmes se taisent dans les assemblées. Il faut qu'elles soient soumises. Si elles veulent s'instruire, si elles ont une question, elles n'interrompent pas le culte par leurs questions, elles interrogent leur mari à la maison, si elles sont mariées. Là, il est assez dur, on peut dire, enfin assez dur, assez ferme, hein. Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Donc il y avait vraiment, visiblement, un problème d'orgueil féminin, de féminisme de l'époque, qui faisait qu'il y avait du désordre dans le culte. Dans l'épître à Timothée, Paul dira plus tard qu'il n'est pas permis à la femme de prendre autorité sur l'homme dans l'Église. C'est pour ça que nous croyons que les femmes ne doivent, sont pas là pour prêcher la doctrine. Par contre, elles peuvent enseigner les enfants, les femmes. Elles peuvent exhorter dans le culte et dans l'assemblée. Elles peuvent être une bénédiction sur tellement de points, mais pas prêcher et pas prendre autorité sur les hommes. Dans la famille, il est répété à plusieurs reprises dans les épîtres que la femme doit être soumise à son mari, et soumise dans le sens qu'elle sert, elle se met au service, elle encourage, elle soutient son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle est une bonne à tout faire, mais elle est celle qui soutient son mari. Elle est un soutien, comme on le voit dans la Genèse, elle est une aide semblable à lui. Donc la femme est semblable à son mari, elle n'est pas inférieure du tout dans la Bible, hein, mais elle a un rôle différent, un rôle de soutien, de complément. C'est une équipe entre le mari et la femme. De même dans l'Église, il doit y avoir vraiment, chacun doit être à sa place, à son rôle. Ce que Dieu veut là, c'est que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Il dit, hein, les esprits des prophètes doivent être soumis aux prophètes. Ça c'est le verset 32. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est-à-dire, on ne doit pas laisser faire n'importe quoi. On voit dans le Nouveau Testament que les cultes étaient quand même probablement plus libres que les nôtres. Nous avons été influencés, même les baptistes, hein, par la liturgie protestante, qui elle-même était influencée par la liturgie catholique. C'est-à-dire d'avoir quelque chose de construit. Et Dieu n'est pas contre, puisque Dieu est pour l'ordre, hein. Donc il n'y a rien de mal à faire quelque chose de construit. Mais il ne faut pas que la liturgie étouffe la participation. La liturgie peut étouffer au sens où, d'abord, c'est la routine, oui, on sait ce qui va être dit à l'avance, on va répéter toujours les mêmes prières, toujours les mêmes chants, toujours les mêmes paroles, donc au bout d'un moment, ça ronronne, et puis la liturgie, c'est aussi tellement codifié que vous n'avez plus aucune improvisation. Or, le Saint-Esprit veut qu'on soit libre aussi. Et c'est là où il doit y avoir un équilibre, où ce chapitre, justement, montre on est sur un équilibre. D'un côté, il faut de l'ordre, de la discipline, de la soumission, du respect, mais d'un autre, il faut une certaine liberté dans le culte. Il dit, si quelqu'un, verset 26, a un cantique, quelqu'un a une instruction, quelqu'un a une révélation, quelqu'un a une langue, quelqu'un a une traduction, que tout se fasse pour l'édification. Il y a cette église que j'aime bien à Strasbourg où ce sont toujours les chrétiens qui choisissent les cantiques. Ils ont un livre de chants et les chrétiens, le numéro tant, et c'est eux qui choisissent et c'est leur façon aussi de participer parce qu'ils veulent qu'on chante ce cantique. Et puis quelqu'un pourrait dire, moi j'aimerais lire un passage biblique, moi j'aimerais prier, voilà. Nous ne faisons pas ça forcément ici. Nous essayons de faire autrement, de laisser la parole aux chrétiens dans le moment de prière, de laisser les chrétiens choisir les chants de temps en temps, hein, sous certains aspects, de laisser des moments de partage où les chrétiens peuvent dire « voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie cette semaine », etc. Donc c'est comme ça que nous voulons participer. Et puis en dehors des cultes aussi, bien sûr, on peut participer. Mais c'est important que le Saint-Esprit puisse travailler dans l'Église. Si on est tellement codifié que le Dieu n'a plus de place, c'est-à-dire quand l'homme a tout codifié, Dieu n'a plus de place. On dit, écoute, ça marche très bien sans toi, Seigneur. On a tellement bien organisé l'Église que finalement, que tu sois là ou pas là, ça change rien, on est très organisé. Ça, c'est pas l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, c'est Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas prêcher, on ne peut pas prier, on ne peut pas chanter sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas s'édifier. On n'a pas l'amour de Dieu sans Dieu. Et on a besoin, Seigneur, que tu sois présent dans nos cultes, que tu sois présent dans nos réunions, dans nos cœurs. Et nous prions que lorsque des amis ou des visiteurs viennent, qu'ils soient convaincus par la présence de Dieu, qu'ils sentent la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Que quand ils rentrent, il y ait cet amour qui les... comme quand on est rentré dans la maison, il y avait toute cette eau. Et bien que quand on rentre dans l'église, il y ait l'amour. Voilà. Hein? Cette chaleur spirituelle, cette chaleur chrétienne. Ça ne vient pas comme ça. Il faut être près de Dieu. Et il faut que tout le monde soit près de Dieu pour que ça marche. On ne peut pas compter que sur les pasteurs ou les missionnaires. Il faut vraiment que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit et que le Seigneur nous aide à pratiquer sa parole. Et si vous avez des questions, je serai à votre disposition après le dernier cantique. On peut avoir un moment de prière avant de chanter.